météo ou la bourse. A l'inverse, d'autres émissions qui disposent de 50 minutes tous les jours de la semaine disposent de plusieurs degrés de liberté. Elles ont le temps et le choix d'aborder toutes sortes de sujets. Mais ces degrés de liberté ne sont pas utilisés de la même façon par toutes les émissions. Le délicieux Alain Rey, dont la courte chronique « Le mot de la fin » a été supprimé en 2006, savait, à partir d'un mot, rebondir avec beaucoup de malice sur l'actualité quotidienne. A l'inverse, certaines émissions longues et quotidiennes font beaucoup de commentaires sur les commentaires avec des chroniqueurs attitrés. Elles nous parlent de l'homme qui a vu l'ours, sans jamais donner la parole à l'ours lui-même. Pour conclure, on dira qu'avec la même épaule, je peux faire le salut nazi ou prêter serment, mais je peux aussi me gratter le dos.
Je viens d'entendre cet après-midi un commentaire concernant la position de Pierre Laurent et du Parti communiste pour le deuxième tour, laissant supposer que le Parti communiste allait voter pour l'UMP. J'ai beau relire l'appel de Pierre Laurent, il n'en est absolument pas question. J'aimerais bien qu'il y ait une modification sur ce commentaire.
Souvenez-vous, c'était en octobre 2007, les franciscains de Toulouse formaient un cercle de silence pour dénoncer, d'une part, l'enfermement de personnes, pour le seul fait d'être restés en France, pour vivre mieux ou pour sauver leur vie, et d'autre part, pour manifester leur inquiétude devant les conditions de détention elles-mêmes au centre de rétention administrative de Corne-Barieux. Depuis, peu de choses ont changé. La justice a récemment condamné un lanceur de chats, mais ferme les yeux lorsqu'il s'agit d'humilier des humains en détruisant les abris précaires dans lesquels ils se protègent du froid, réduisant en bouillie leurs effets personnels et leurs papiers. Depuis 6 ans, dans une centaine de villes de France, mais aussi en Europe, les cercles de silence se tiennent pendant 1 heure pour interpeller les pouvoirs publics. À Castres, dans le Tarn, le prochain cercle de silence aura lieu le vendredi 28 mars, de 18h à 19h, place Jean Jaurès. Donc vous êtes invité à y participer, une participation même courte témoignera de votre soutien. À vendredi.
Bonjour, bonjour, c'est la Drôme qui vous parle. C'était pour dire qu'il y avait un café repère à Bonlieu-sur-Roubion, le dernier jeudi de chaque mois, et que bah, du coup c'est ce soir. Et c'est 85 route de Cléon-Dandran. Donc on se donne rendez-vous à 19h. Tout le monde peut rapporter un petit truc à manger ou à boire. Et puis ce soir, la thématique, c'est la montée des extrêmes droites en Europe. Voilà, on va bien s'amuser. Allez, à bientôt.
Ma femme et moi, toute notre vie, avons été solidaires de beaucoup de causes et avons toujours voté à gauche. Nous avions décidé d'avoir une grande famille. Alors nous avons eu 4 enfants biologiques. En 91-92, nous avons adopté 2 enfants dans un orphelinat roumain. En 1996, nous avons adopté un enfant rwandais rapatrié en France. À notre départ en retraite, cela nous a donné l'avantage certain d'avoir une majoration sur notre pension pour avoir élevé 7 enfants. Curieusement, cette majoration est devenue imposable par une loi votée, écoutez-moi bien, le 29 décembre 2013. De ce fait, le montant imposable porté sur nos bulletins de pension en 2013 n'était pas bon. Notre caisse de retraite vient de nous le rappeler avant de faire notre déclaration et entre les 2 tours des municipales. Je viens de calculer qu'à revenu constant, j'allais déclarer 25% de revenus en plus. Je n'ose même pas calculer mon impôt. Merci la gauche. Jamais plus vous n'aurez nos bulletins de vote. Paul Redon.
Bonjour, merci pour vos dernières émissions. J'ai trouvé ce texte de Pierre Bourdieu. La télévision a une sorte de monopole de fait sur la formation des cerveaux d'une partie très importante de la population. Or, en mettant l'accent sur les faits divers, en remplissant ce temps rare avec du vide, du rien ou du presque rien, on écarte les informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques. Merci.
Remplir le temps rare avec du vide. C'est donc sur la télévision, en effet, cette analyse de Pierre Bourdieu. Et il se pourrait bien que remplir le temps rare avec du vide, ce soit une forme actuelle de la censure. La censure, c'est j'interdis, je coupe, j'enferme. Donc c'est ferme ta gueule, la censure. Là, ça pourrait être le cause toujours. Vas-y, de toute façon, babille, papote, on s'en fout de ce que tu racontes. Du moment que ça reste insignifiant, sans conséquences, sans enjeu. C'est ce qu'on appelle la culture très souvent. On nous le dit, on nous le répète. faites de la culture, mais faites pas de politique. La politique, c'est emmerdant. La culture, c'est bien sous-entendu, ça élève l'esprit. C'est consensuel, la culture. On va ensemble au musée, à l'opéra, etc. La culture, c'est ce qui élève. Mais pas la politique. La politique, c'est pas bien. Alors aujourd'hui, avant-hier, c'était Emmanuel Todd et François Ruffin, le grand détraquage. On a essayé d'analyser un peu la situation aujourd'hui. Hier, c'était Normand Baillargeon qui parlait de son petit traité d'autodéfense intellectuelle. Ben, aujourd'hui, c'est la suite avec Franck Lepage. Franck Lepage, on l'a rencontré à plusieurs reprises dans la Basse où j'y suis, notamment à la FIAC. Vous vous souvenez, avec Guy Van Til, on était les trois réacs à la FIAC. Une remise en question de la culture, des enjeux, comment la grande idée de l'éducation populaire, du Front populaire, de Jean Zay, etc., on est revenu souvent sur ces thèmes-là, produit aujourd'hui quelque chose entre le loisir, la distinction et la consommation. Franck Lepage se dresse contre ça, il fait ses fameuses conférences gesticulées, mais il n'est pas seul, il va nous expliquer sa démarche et son travail. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Basse où j'y suis, au 01 56 40 37 37, et n'oubliez pas ce soir à 19h30 au Borsalino à Aubagne, le repère de la Basse où j'y suis.
Salut à tous, c'est une petite piqûre de rappel pour vous dire que donc le repère de Tourette dans le Var, l'arrière-pays de Saint-Raphaël, aura lieu ce soir à 19h. Donc maintenant c'est le dernier jeudi de chaque mois à 19h au Latitude chez Pascal à Tourette. Et puis bon, on s'adresse à tous ceux qui ont participé à des listes sur les élections municipales, qui viennent en discuter et qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour agir déjà en soutien aux élus d'opposition et puis agir sur l'intercommunalité et voir les quelques élus du canton puisqu'ils sont un petit peu dans notre optique. Donc ce soir 19h au Latitude à Tourette. Ciao, vive, portez-vous bien.
Bravo, merci, merci Daniel Mermet et toute votre équipe et vous auditeurs, si humains avec un grand H. Vos voix me donnent l'espoir d'une vie meilleure et indiquent aussi la voie, avec un E, pour que la vie terrestre, si menacée, puisse continuer. Merci, c'était Géo du Pas-de-Calais.
Salut à tous, ce vendredi 28 mars au théâtre Sortie Ouest à Béziers à partir de 18h30, grande soirée avec Pierre Carl qui présentera trois de ses films. Pour commencer, Le désarroi esthétique, un petit film absolument délicieux sur la misère des riches. Ensuite, tout frais sorti de la salle de montage et en avant-première, Les ânes ont soif, une enquête soutenue par Le Monde diplomatique, l'un des rares journaux français à lui avoir donné la parole. Et pour finir, Gruissant à la voile et à la rame, Soleil, Embrun et Tramondane, l'odyssée de Pierre Carl et Philippe Lespinas à la recherche d'une voie de survie auprès des chasseurs, cueilleurs, éleveurs et braconniers sur un grand étang du Languedoc. Un bon bol d'air frais et de rusticité volontaire. On aura tout le loisir de débattre avec Pierre Carl après chaque film. Une soirée revigorante en perspective, les Biterrois en ont bien besoin. Salut à tous, merci.
Ah ah, je voudrais répondre à l'auditeur qui disait que le pire c'était suspect. Je ne suis pas d'accord. Il y a concentrique. Et comme disait Boris Vian, un être vous manque et tout est dépeuplé. Allez savoir.
Suspect. Moi je préfère consensus. Consensus pour si peu, c'est peut-être un peu abusé.
Et alors je m'étais mis en tête d'interviewer quelques grands anciens avant qu'il ne soit trop tard. Et notamment j'avais retrouvé les traces d'une certaine mademoiselle Christiane Faure qui avait joué un rôle important en 1944 en créant la première direction de l'éducation populaire au sein du ministère de l'Éducation nationale. Alors, je trouve son numéro, je l'appelle un jour comme ça, et alors je tombe sur une espèce de vieux bonhomme désagréable. Allô ? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, voilà, je m'appelle Franck Lepage, et j'aurais voulu parler à mademoiselle Faure, s'il vous plaît, mademoiselle Christiane Faure.
Et qu'est-ce que vous lui voulez, mademoiselle Christiane Faure ?
Voilà, je dois faire un travail sur la notion d'éducation populaire, et il se trouve que mademoiselle Faure, en 1944...
L'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu. Cela n'intéresse plus personne aujourd'hui. Au revoir. Clac.
J'y suis allé. J'ai sonné. La porte s'est ouverte. Et là, mesdames, messieurs, j'ai vu une dame vieille. Mais vieille. Espèce de truc couché en deux sur une canne comme ça, oui, qui m'a regardé par en dessous et qui m'a dit...
Alors, vous avez trouvé.
Alors tout ce que j'ai gagné à l'avoir appelé monsieur pendant 10 minutes au téléphone, c'est qu'elle a refusé que je l'enregistre. Elle a également refusé que je prenne des notes. Elle a accepté le principe d'une conversation face à face. Elle m'a prévenu qu'il n'y aurait pas de deuxième fois. C'est ce qui me reste de cette journée incroyable que je suis parti pour vous raconter ce soir.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Antoine Chao et avec Franck Lepage pour une éducation populaire.
Flight number 2, arriving from New York.
Voilà, alors on nous reproche souvent de faire des émissions trop critiques, trop politiques, parfois même avec des gros mots. Mais là, ça va être très bien parce que c'est une émission entièrement culturelle. Que de la culture, c'est-à-dire ce qui élève l'esprit, ce qui élève l'âme, ce qui nous rend meilleurs, plus beaux. Et ça, on le doit à Franck Lepage, que nous recevons aujourd'hui dans Là-bas si j'y suis, et qui est un homme de culture, qui vient de la culture, et qui fait de la culture, et qui est content. Franck Lepage. Bonjour, bonjour, Franck Lepage.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
En quelques mots, oui. Aujourd'hui, j'habite en Bretagne et je suis dans la culture des poireaux. Je cultive des poireaux et avant, j'étais à Paris. J'étais dans la culture, tout court, puisqu'on a en France un truc qui s'appelle la culture. Voilà, la culture avec un grand Q, celle qui élève l'âme, hein, celle de l'art qu'on tend pour rien, toutes ces belles choses-là. J'ai été un peu le porteur de valise de ce truc-là à un moment. J'étais prophète culturel, voilà, et puis je me suis fait virer, j'ai arrêté tout ça, et je me suis retrouvé en Bretagne. Et maintenant, j'essaie de cultiver des poireaux, c'est pas évident.
Alors, on va venir aux poireaux et à la culture des poireaux et à ce que vous faisiez auparavant, c'est-à-dire, vous l'expliquez dans votre spectacle, comment on va dire, spectacle ou conférence gesticulée ?
Conférence gesticulée.
Conférence gesticulée.
Alors, pour être très très précis, je pourrais dire que j'étais dans la culture des pauvres. Voilà, si vous voulez, mon travail consistait à cultiver des pauvres. Et maintenant, je cultive des poireaux. Voilà. C'est beaucoup plus facile. Le pauvre est une espèce résistante à la culture. Et donc, quand j'essayais de cultiver des pauvres, je me tapais bide sur bide. Maintenant que je suis dans la culture des poireaux, ça va beaucoup mieux. Et donc, c'est l'histoire que je vais un peu vous raconter. Je faisais ça dans les banlieues. Hein. C'est là qu'ils sont essentiellement. Et donc, mon travail consistait, celui-là, à cultiver, c'est-à-dire, grosso modo, à leur balancer du fumier culturel, vous voyez, sur la tête pour les faire pousser, essentiellement sous forme d'art contemporain. Il y a énormément de fumier dans l'art contemporain, et donc ça pousse très bien. Et donc je leur balançais des charrettes de danse contemporaine, musique contemporaine, théâtre contemporain, etc., avec l'idée que ça allait les faire pousser, vous voyez, et qu'ils allaient rattraper les riches. Et alors, on appelle ça en France, chez nous, la démocratisation culturelle, excusez-moi. Hein, c'est... Et alors, il m'est arrivé un truc terrible, mesdames, messieurs, j'ai arrêté de croire à ça. J'ai arrêté de croire à la culture, enfin, je sais pas comment vous dire. J'ai arrêté de croire qu'en balançant du fumier sur la tête des pauvres, ils allaient combler l'écart avec les riches. Et alors, je ne souhaite ça à personne. Je ne souhaite ça à personne. Quand vous arrêtez de croire à la culture, vous vous retrouvez très seul.
Autrefois, donc, vous le dites dans votre conférence gesticulée, vous mettiez du fumier sur la tête des pauvres pour les faire pousser,
voilà,
pour les élever.
De l'engrais culturel. Voilà,
c'est ça. Et vous en êtes revenu.
Oui, j'ai fini par comprendre que c'était un mensonge fondamental, enfin, que cette idée que les gens manquent de culture et que c'est pour ça qu'ils sont là où ils sont dans les rapports sociaux, hein. S'ils sont pauvres, c'est de leur faute, ils n'ont qu'à se cultiver, ils vont devenir riches immédiatement. J'ai mis un certain temps à comprendre que c'était une arnaque, enfin, que ça marche pas comme ça du tout. Et donc, on leur balance beaucoup d'art contemporain. Il y a beaucoup de fumier dans l'art contemporain, donc ça pousse très bien. Voilà. Et donc si on balance dans les quartiers de la danse contemporaine, de la musique contemporaine, du théâtre contemporain, évidemment, ça va tout changer.
Je voudrais qu'on vienne sur l'histoire de ce mot culture, au moins à la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque ce mot a un certain sens qui est beaucoup plus proche de l'idée d'émancipation et de l'idée politique que ce qu'il est devenu
par la suite.
Et tout ça à cause de qui, mesdames, messieurs? À cause de Christiane Faure. En 1940, monsieur, j'étais jeune professeur de français au lycée de jeunes filles à Oran, en Algérie, lorsque l'État français a promulgué les lois portant statut des Juifs en France. Nous avons reçu une circulaire, monsieur, nous demandant d'identifier les élèves juifs afin de les expulser des établissements publics. Monsieur, des élèves juives à Oran, j'en avais quelques-unes. J'ai pleuré de rage. J'enseignais Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu. Monsieur, sachant les enseigner, nous aurions dû savoir les défendre. Et donc Christiane Faure me raconte que elle est la seule à s'offusquer et que ses collègues lui disent « Écoute, Christiane, qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, on n'y peut rien. C'est une loi, c'est la guerre. Et puis, mets-la un peu en veilleux si tu veux pas d'ennuis. » Et alors, elle va résister, Christiane Faure. Elle va leur faire passer des cours en cachette le soir chez elle. Mais ça va se savoir. Et on va la menacer. On va la menacer de déportation. Mais l'Algérie est libérée très tôt et en 1942, le gouvernement provisoire de la République s'installe à Alger. Ils ont entendu parler d'elle et lui proposent de rentrer dans le premier cabinet du premier ministère républicain de l'éducation nationale. Le directeur de cabinet s'appelle monsieur Jean Guéhenot, un philosophe, un intellectuel proche du Parti communiste, un type important. Alors ils mettent en place en 1944 un truc hallucinant qu'on appelle la direction de l'éducation populaire et des mouvements de jeunesse. Et donc c'est Christiane Faure qui est chargée de mettre ça en place et elle va recruter des gens de la culture populaire, des gens du cinéma, des gens de la radio, M. Pierre Schaeffer qui va créer Radio France plus tard, des gens du théâtre. Et ils vont être 18 à embarquer dans l'histoire et elle va leur demander s'ils accepteraient de laisser tomber leur carrière professionnelle en quelque sorte et de venir inventer les conditions d'une éducation politique des jeunes adultes en France. On est en 44. On vient d'ouvrir les portes d'Auschwitz.
Oui, je raconte une toute petite histoire de notre histoire, de ce que des historiens appelleraient un personnage secondaire, enfin bref, qui est celle de cette mademoiselle Christiane Faure, qui est par ailleurs la belle-sœur d'Albert Camus, des choses comme ça, c'est pas n'importe qui non plus, qui avec Jean Guéhenot, avec René Capitan, enfin à la Libération, qui se pose la question de transformer le ministère de l'Instruction publique en ministère de l'Éducation nationale, en partant du principe que avec Auschwitz, on sait désormais que c'est pas un problème de culture. On peut être extrêmement cultivé et un vrai fasciste.
On peut être très instruit, très, et très
instruit,
nazi.
Voilà, complètement. Et donc, si c'est pas un problème d'éducation et culture, c'est donc un problème d'éducation politique. Ça va durer très peu de temps, ça va durer 3 ans avant d'être torpillé, ce truc-là. Donc c'est rien, de 44 à 48, mais une espèce d'intention qui va rester, qui va pas mourir, qui va continuer à travailler, à emmerder le monde. Et donc ils vont mettre en place une direction de l'éducation populaire. Éducation populaire, Christiane Faure m'explique que dans son esprit, c'est de l'éducation politique, enfin c'est de la culture politique, d'accord? C'est comment est-ce qu'on va sortir du fascisme, comment on va faire que ça n'arrive plus jamais, comment on va installer sérieusement et définitivement une démocratie. Bah, pour faire ça, il faut faire de la culture politique. Qu'il faut que les gens acquièrent une culture politique. Ce que, par ailleurs, Condorcet avait déjà raconté il y a 2 siècles, mais enfin, on avait soigneusement laissé tomber cet aspect de...
Et développer ça, cette idée de Condorcet, Christiane Faure, restons un petit peu là-dessus, parce que c'est l'essentiel, c'est la base de votre boulot, c'est la base de votre réflexion, c'est ce qui a fait que vous êtes un renégat de la mission qui était la vôtre auprès de ceux sur la tête desquels vous mettiez du fumier, c'est quand même important. Alors, remontons à Condorcet.
Au moment de la Révolution française, il s'agit de réaliser l'égalité, la vraie, vraiment, de la faire pour de vrai. Hein, pas l'égalité des chances, hein, ça c'est celle de Sarkozy. Hein, l'égalité des chances, on est d'accord, ça veut dire l'inégalité. Okay, c'est des astuces de langage à la con dont on souffre tous actuellement. Et donc, il faut faire vraiment de l'égalité. Alors, il y a plein de plans d'éducation, il n'y a pas que celui de Condorcet. Hein, je raconte dans une autre conférence, je parle de Lepelletier de Saint-Fargeau, etc. Bon. Mais bref, grosso modo, Condorcet comprend un truc, c'est qu'il faut faire l'instruction publique là, des enfants, mais que si on fait que ça, on va simplement reproduire une société dans laquelle les inégalités seront désormais justifiées par les savoirs. C'est-à-dire, si t'es pauvre, c'est parce que t'es pas assez instruit, c'est bien fait pour toi, t'avais qu'à bouger à l'école. C'est un mensonge incroyable. Enfin, Bourdieu a expliqué dès 1962 que c'était complètement aberrant, ce truc-là. Enfin, que l'école ne change rien aux inégalités, l'école les reproduit, elle les légitime. Et donc, Condorcet dit, il faut faire aussi l'éducation politique des adultes. D'accord ? pas des enfants. Ok, on va pas faire de l'éducation politique des enfants, tout le monde peut comprendre pourquoi. Mais une fois que c'est plus des enfants, on peut faire de l'éducation politique, c'est-à-dire expliquer la démocratie, la République. La démocratie, c'est un rapport de force, hein, c'est pas un État, on n'est jamais en démocratie, jamais. Hein, on est toujours plus ou moins en démocratie. Et donc Condorcet, il appelle ça l'éducation populaire. Et il faut une Shoah, c'est ce que je raconte, il faut 6 millions de Juifs partis dans les camps pour qu'on admette en 1944 cette idée toute simple, toute bête, que la République a une responsabilité de mettre en place l'éducation politique, l'éducation démocratique des jeunes adultes. Alors, ils vont mettre ça en place en 1944, ça va s'appeler une direction de l'éducation populaire et des mouvements de jeunesse, sachant qu'à l'époque, jeune, ça veut dire adulte, ça veut pas dire un adolescent.
Oui, c'est ça, jeune, oui.
Ben oui, aujourd'hui, un jeune, c'est un mec qui a 14 ans, une casquette à l'envers, des lacets défaits dans une banlieue. C'est ça, un jeune, dans le discours politique. Mmh. Mais pas en 1944, ok bon. Et donc, je raconte que cette idée absolument magnifique, cette idée révolutionnaire, va être assassinée deux fois. Une première fois, en 1948, sous la forme d'une direction générale de la jeunesse et des sports. Hein, donc là, c'est très clair. On va mettre la jeunesse avec les sports. Ils feront pas d'éducation politique, ok. Ils feront du kayak, bon. Et puis une deuxième mort, qui est beaucoup plus embêtante, celle-là, qui est le ministère de la Culture, qui arrive...
Inventé en 59 pour Malraux.
Alors c'est plus compliqué que ça, mais on n'a pas le temps, on ne va pas ergoter ici, mais effectivement, De Gaulle qui veut confier un ministère à Malraux, Debré va demander à Malraux ce qu'il veut être, et Malraux ne demande pas du tout à être ministre de la Culture, pas du tout. Il faut arrêter de dire que Malraux a inventé le ministère de la Culture, il ne l'a pas pensé, il n'y a même pas demandé. Okay, Malraux veut être ministre de la Jeunesse, ensuite il veut être ministre de la Recherche, après il veut être ministre de la Télévision, après comme Debré refuse, il boude, et finalement on va lui proposer, il y a une idée qui traîne un peu comme ça, c'est l'idée de ministère de la Culture. Mais c'est très très compliqué en 58, ministère de la Culture, parce qu'il n'y a eu que trois ministères de la Culture dans le monde à ce moment-là. C'est un chez Hitler, un chez Mussolini et un chez Staline.
Oui.
Et la vraie difficulté, c'est est-ce qu'il peut y avoir un ministère de la Culture dans une démocratie ? Alors, les instructeurs d'éducation populaire de Mademoiselle Faure, puisqu'elle va quand même commencer son travail, elle va recruter des gens, ils vont commencer à se mettre au travail, etc. Eux se disent à ce moment-là, il doit y avoir moyen d'avoir un ministère de la Culture dans une démocratie, à condition que ça soit un ministère qui travaille la question démocratique en permanence. Ça serait donc un ministère dans lequel il y aurait le mouvement social, le féminisme, le syndicalisme, la politique, enfin bref, la culture, tu vois. Et ils pensent à Camus pour être leur ministre. Et Camus, c'est vraiment pas Malraux, hein. C'est rien à voir. Bon, on va récupérer Malraux, peu importe, on va pas faire une émission sur Malraux, ça aurait à peu près autant d'intérêt que de consacrer une émission à Jacques Lang. Enfin, bon. Parce que c'est pas Malraux qui a fait ce ministère, enfin, je veux dire, c'est une administration. Il va apporter sa figure, sa légende, d'accord, à la construction de ce ministère. Mais c'est pas lui qui va le bâtir.
Et si le mot culture a un sens, il est ce qui répond au visage qu'a dans la glace un être humain quand il y regarde ce qui sera son visage de mort. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Et pour le reste, mieux vaut n'en parler qu'à d'autres moments. Il y a aussi les entr'actes.
Mais ce que vous dites, c'est qu'à partir de Malraux, le mot culture va devenir synonyme d'art.
Ça, c'est la grande, grande catastrophe intellectuelle qui nous arrive.
Majeure. On va évacuer du mot culture...
La culture.
Tout la culture,
c'est on ça. On va virer la culture
de la culture. C'est-à-dire la vie sociale, c'est-à-dire, politique,
c'est-à-dire le combat, c'est-à-dire comment vous et moi, on échange de l'information sur la domination, sur comment on s'en sort, d'accord ? C'est à la culture, quoi. Je veux dire, la façon de survivre dans une société capitaliste, oui. Le syndicalisme, la lutte des classes...
Alors, on a trouvé un mot pour ça, c'est le mot socio-culturel.
Absolument.
Il y a la culture et le socio-culturel.
Voilà, on a une obscénité en France, et le ministère de la Culture est là pour veiller à ce qu'elle existe, qui est une séparation d'une inimaginable violence entre ce qui est culturel et ce qui n'est que social ou socio-culturel. Si vous allez au ministère de la Culture dire « je voudrais faire un travail avec des chômeurs sur la vie des gens, etc. », enfin, on va vous regarder comme un cancre-là. Vous allez dire « écoutez, ça, c'est pas de la culture, soyez raisonnable. Ça, c'est du socio-culturel, c'est de la gîte propre. Enfin, c'est un truc... ça va. » Et donc, la culture, c'est le tas de fringues de Boltanski au Grand Palais. Voilà, ça, c'est de la culture.
Oui, alors quand vous dites ça, si vous dites c'est le tas de fringues de Boltanski au Grand Palais, on dit bon, ce gars-là est un poujadiste,
tout à fait.
Il va au concert
absolument.
De Johnny,
voilà.
C'est un crétin qui aime Mireille Mathieu et qui se gave de Jean-Pierre Pernaut le midi en boucle.
Oui, parce qu'il ne peut plus y avoir de critique de gauche de la culture, puisque la gauche s'est durablement piégée dans la question culturelle. La culture, c'est ce qui sert à tuer la gauche. Voilà, je vais le dire simplement, on va gagner gagner du temps. La culture, ça sert à, le culturel, ça sert à détruire du politique. Alain Brossa est un auteur qui a écrit ça mille fois mieux que moi, un livre qui s'appelle Le Grand Dégoût Culturel. En gros, quand c'est culturel, c'est que ça n'est plus politique. Bon, c'est ça, et c'est pour ça que je parle de catastrophe, parce que la gauche s'est foutue là-dedans. Moi, le premier, hein, c'était mon métier. La gauche s'est foutue là-dedans, mais alors elle a mis les deux pieds dedans, si on peut dire. Et alors maintenant, elle n'en sortira pas, je le crois pas. Je crois pas, je veux dire, aujourd'hui, quand vous dites culture à quelqu'un, il n'entend plus que art. C'est tout ce qu'il entend, c'est-à-dire théâtre, musique, danse, voilà. Et en plus, dans la version la plus grotesque, la plus décadente, la plus sinistre, qui est l'art contemporain, qui est un des courants politiques de l'art qui est vraiment bon.
Vous dites dans votre, alors on ne peut pas dire spectacle, mais conférence gesticulée, encore une fois, conférence gesticulée, c'est une, ça baigne dans une religiosité contemplative, une béatitude, on est admiratif de telle et telle chose, sans donner d'explication.
On est dans l'ordre du sacré. On est dans l'ordre du sacré. Voilà. Vous ne pouvez pas critiquer. Et c'est ça qui a changé au tournant des années 60 avec l'arrivée de ce ministère. C'est-à-dire qu'avant, c'était du théâtre. Et c'était que du théâtre. Ou de la peinture. C'était que de la peinture. Donc on pouvait dire, on pouvait critiquer, on pouvait dire c'est beau, c'est moche, c'est bien. Maintenant, on ne peut plus. C'est impossible. Immédiatement, vous êtes taxé d'être un type dangereux, un mec de droite, enfin... Et donc, il ne peut plus y avoir de critique de gauche de la culture. C'est pas possible. Toute critique de la culture est une culture de droite. Et bien, le capitalisme a marqué une victoire flamboyante. Et alors, comme par hasard, alors c'est là où il faut faire un peu d'histoire, quand on gratte un peu sur ces questions-là, la CIA, encore elle, dès les années 50, va subventionner massivement les gouvernements européens pour financer des formes d'art qui ne désignent plus aucun rapport social, c'est-à-dire de l'art abstrait, de l'art cucu, rigolo, bébête, d'accord, en partant du principe que de l'art qui parle vraiment de la vie des gens, ce n'est plus de l'art, c'est du réalisme socialiste.
Enfin. Pas seulement des arts bébêtes subventionnés par la CIA, mais on s'est aperçu récemment que des artistes, des grands artistes comme Schoenberg ou Stravinsky étaient financés de cette façon par des fonds provenant des États-Unis via la CIA, via des fondations européennes. Et ces artistes, Schoenberg, Dieu sait si c'est une personnalité éminente, et Stravinsky encore plus peut-être, savaient d'où venaient les fonds qui leur permettaient de créer leurs œuvres.
Le drame, c'est que la gauche n'a pas changé ça. Que la droite mette ça en place. De Gaulle, Malraux, sa bande, enfin, je le comprends ça. Je veux dire, que la droite dise que les gens sont dans la situation sociale où ils sont parce qu'ils manquent de culture, ok, ça c'est une idée de droite, c'est simple. Mais que la gauche pense ça, parce que va faire Jack Lang quand il arrive, c'est ça qui est hallucinant. Il va faire plus fort que Malraux. Il va propulser la figure de l'artiste à des hauteurs jusque-là inconnues. Je veux dire, la gauche arrivant au pouvoir, elle aurait dû remettre en place une politique culturelle de gauche. Je sais ce que c'est qu'une politique culturelle de gauche. C'est une politique qui abolit la séparation entre culturel et socioculturel. C'est une politique qui, effectivement, fait re-rentrer de nouveau dans les maisons de la culture ou les établissements culturels l'action sociale, le syndicalisme, le féminisme, les gens, la vie, enfin bref, c'est ça la culture. L'école, enfin la réflexion sur l'école. Alors pas du tout. Pas du tout, la gauche va faire encore plus fort que Malraux. Et donc aujourd'hui, on a cette situation absolument terrible, enfin, du point de vue intellectuel, c'est que culture, ça veut dire beaux-arts. Voilà.
Et les acteurs de la culture dont vous étiez sont sûrs de faire le bien, puisqu'ils conduisent le peuple vers le beau.
C'est ça.
Apportent la culture à tous, comme les missionnaires autrefois allaient dans les colonies apporter la religion, la Bible, l'enseignement, etc. C'est un peu les mêmes, l'esprit missionnaire qui prévaut toujours aujourd'hui et qui est vu comme ce qu'on peut faire de mieux.
Oui, et ça détourne les classes moyennes de faire alliance avec les classes populaires. La culture, ça sert à ça. Enfin, ça sert à convaincre les classes moyennes de s'allier avec la bourgeoisie. Enfin, si on va admirer les idioties de Jeff Koons à Versailles, c'est donc qu'on est capable de comprendre cette démarche, etc. etc. Je dirais.
C'est une démarche de distinction.
Oui, oui. Je raconte cette anecdote des amis à moi qui étaient animatrices dans une association d'éducation populaire emmènent des jeunes de banlieue à une foire d'art contemporain et là il y a une œuvre d'un artiste où il a fait carreler un pavillon entier puis il a ensuite démoli à coups de marteau tout le carrelage et donc l'œuvre c'est ça. Donc c'est des gravats par terre et donc on traverse ce pavillon, on marche sur des gravats. Et alors les jeunes évidemment disent « Madame, je peux faire pareil si on me donne des subventions ». Je peux casser des abribus, je peux, etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est la réponse de cette animatrice. Soit elle aurait dû répondre au nom de l'éducation populaire, elle aurait dû répondre « Oui, bien sûr que tu peux faire pareil, mais tu ne seras jamais légitimée comme artiste. Jamais François Pinault ne mettra un centime sur ta tête si tu fais ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer comment marche la légitimation des gens hein, à qui on... Voilà. Comment on fabrique un Boltanski, comment, etc. Au lieu de lui dire ça, qu'est-ce qu'elle lui dit ? Elle lui dit, bah, c'est dommage que tu dises ça, parce que ça prouve que tu n'es pas capable de comprendre la démarche de cet artiste. Tu es un sous-homme.
C'est ça, c'est-à-dire le... Voilà, et l'artiste, un surhomme, un Prométhée...
Quelqu'un qui est touché par une grâce mystérieuse et inexplicable qu'on appelle l'art et dont toi, moi, ici, personne, aucun d'entre nous ne sera jamais atteint.
Alors, à ça, qui encore une fois relève de l'idéologie dominante, il y a beaucoup d'auditeurs qui sont absolument froissés, sinon choqués par ce que vous êtes en train de dire, vous opposez la culture de tous et par tous.
Oui,
alors
donc,
magnifique formule, voilà, de tous et par tous. Est-ce que ça marche, ça? Est-ce que tout le monde a une culture? Est-ce que tout le monde a quelque chose à dire? Est-ce que le commun des mortels a des choses aussi indispensables que ça?
C'est ce que vous faites quotidiennement à la base si j'y suis, ou alors j'ai pas bien compris ce que c'est qu'un repère de la base si j'y suis. ce qu'on a proposé, donc moi j'ai fait une conférence gesticulée, puis j'en ai fait une deuxième sur l'école, ensuite avec mes amis, puisqu'on est dans un collectif qui s'appelle une coopérative d'éducation populaire. On a créé une coopérative d'éducation populaire, on est 7-8, ça s'appelle le pavé, et donc on s'est mis à en faire d'autres. C'est-à-dire qu'on
comme par hasard, ils choisissent des noms.
Ah bah, c'est la référence anti-sarkoziste universelle. À partir du moment où Sarkozy a désigné mai 68 comme l'ennemi, et il a eu raison, la guerre de 68, ça ne pète pas seulement en France, ça c'est ce que nous raconte Serge Julie à Libération. 68, ça pète dans une immense partie du monde, c'est une des plus importantes dernières remises en cause du système capitaliste. Ça pète au Mexique, aux États-Unis, au Japon, il y a des morts, hein. ça pète dans une grande partie du monde capitaliste. On veut nous faire croire que c'est un petit chahut d'étudiants en France, d'accord ? Mais bon, c'est dommage que Ben Saïd soit plus là pour nous remettre les pendules à l'heure.
Oui.
Et donc oui, ça marche. On a invité, donc avec le pavé, on a invité d'autres gens à faire pareil. Écoutez, vous êtes assistante sociale, vous avez 25 ans d'ancienneté. Est-ce que ça vous intéresserait, plutôt que de partir à la retraite cultiver des bégonias, de monter sur scène et d'expliquer, de partager avec des gens ce que vous avez compris pendant 25 ans de ce que c'est que les politiques d'action sociale dans ce pays, comment ça marche, qu'est-ce que c'est que l'horreur du RSA, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, des agents d'une mission locale pour l'emploi, d'accord, qui savent quasiment tous qu'ils n'ont jamais inséré personne d'autre qu'eux-mêmes, d'accord, qui font autre chose. Mais qui sont obligés de faire ça, c'est leur métier, ils font de l'insertion. Mais en même temps, ils ont un savoir politique là-dessus, qu'ils ne peuvent jamais exprimer, jamais, ni dans leur syndicat pour des raisons sur lesquelles on n'a pas le temps de revenir, ni dans... Il n'y a pas de procédure pour que les gens témoignent de la façon dont ils vivent concrètement la domination. Et ben voilà, vous imaginez, vous dites, voilà, vous êtes agent d'une mission locale, est-ce que vous voulez monter sur scène et raconter, sous une forme un petit peu mise en forme, en respectant un peu la convention spectaculaire, un minimum, hein, on ne va pas en faire trop. Pas. Et donc... On a lancé une invitation dernièrement et on a été débordés pour répondre à votre question. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont arrivés en masse en disant « Moi, je veux raconter. »
Qui, mais quel par exemple ?
J'ai une instite qui veut plus être instite, qui devient folle avec ça. Des experts d'un cabinet d'expertise qui sont au cœur de l'exploitation dans l'entreprise. Des travailleurs sociaux, des gens qui sont dans les quartiers à faire du développement durable, qui disent « Moi, j'en peux plus, je veux expliquer pourquoi c'est un mensonge. » Enfin, voilà.
Alors, ils montent sur scène, vous les aidez un peu, non ? Comment
tout
ça se passe ?
Un petit peu, oui. En fait, on va lui demander, on va lui proposer de fabriquer un Scooby-Doo avec 2-3 fils. Un des fils du Scooby-Doo, c'est sa vie à lui, c'est-à-dire son autobiographie. Comment il est arrivé là, d'où ça vient, par quoi il est passé. Un autre fil du Scooby-Doo, c'est qu'est-ce qu'il a compris politiquement de son expérience dans son métier. Un troisième fil, c'est qu'est-ce qu'il a lu sur la question. Parce que les conférences gesticulées sont aussi des occasions de vulgariser de la pensée. Par exemple, celle qu'on fait sur le travail, on parle beaucoup, beaucoup de Bernard Friot, qui est un des économistes de gauche décents. Ou quand on fait une conférence sur le management et la démarche qualité, on va chercher du savoir froid qu'on va mélanger avec du savoir chaud.
Oh là, c'est quoi ça ?
C'est très facile. Un savoir froid et un savoir chaud, ça donne pas un savoir tiède, ça donne un orage. Hein. Quand on fait du parapente, on sait ça. Hein.
C'est ça. Alors, ça y est, il est dans son parapente. Une partie de vos spectacles évoque le parapente, parce que vous faites du parapente, et c'est les métaphores que vous utilisez tout au long du spectacle, enfin, de la conférence gesticulée.
J'ai trouvé cette métaphore amusante de dire que quand on rentre dans une bulle thermique en parapente, parapente et qu'on a un gars qui est entré au-dessus de nous, d'accord, donc il est au-dessus de nous, d'accord, dans les rapports sociaux. Si on compare l'air chaud à la culture, hein, ce qui permet de s'élever en société, ben on s'aperçoit que les deux mecs ne se rattrapent jamais, c'est-à-dire qu'ils montent à la même hauteur. Et donc le mensonge de la démocratisation culturelle, c'est de faire croire qu'en donnant de la culture aux pauvres, ils vont rattraper les riches, en faisant semblant de ne pas savoir que les riches se cultivent aussi pendant ce temps-là, et qu'ils se cultivent même plus vite, et que la culture, ça sert à accentuer l'écart et pas à le réduire. Sauf pour 1%. Voilà. Le fameux 1% qui rentre à Sciences Po et qui vient des banlieues, qui n'en sort pas d'ailleurs, il ne fait que rentrer. Hein. Bon. Et donc voilà. Et donc la métaphore du parapente, c'était celle-là.
L'idée du parapente, c'est pas de descendre, hein, c'est de monter. Hein. Quand vous descendez en parapente, vous faites. Pouf, alors il faut plier le truc, faire du stop, enfin c'est nul. La journée est ratée. C'est... Non, l'idée du parapente, c'est de monter. Ça. Et pour ça, on attrape des bulles thermiques, des espèces de grosses bulles d'air chaud qui montent. Et donc, en parapente, on essaie de rentrer dans des bulles comme ça. Vous voyez, on cherche les bulles. Et alors, j'étais rentré dans une bulle d'air chaud, un jour. J'étais rentré en bas de la bulle. Vous voyez. Et alors, il y avait un type qui était entré en haut de la bulle. Vous voyez. Alors, vous imaginez, moi, c'est le pauvre, et lui, c'est le riche. D'accord. Alors, vous imaginez que l'air chaud, c'est la culture. Hein. Alors, attention, regardez bien. Hop. C'était pas con, hein, au début, l'idée. On va balancer de la culture aux pauvres, ils vont rattraper les riches. Oui. Le riche se cultive aussi.
Pays de l'égalité. Écoute ça.
Pays de l'égalité.
Écoute ça. Une classe sociale de souillons qui met tout son dévolu dans les études pour que son statut d'exclu évolue. Mais vu qu'il est peu possible qu'une masse entière soit promue, plus elle monte vers la culture, plus la culture s'échappe au-dessus. Car le bourgeois gentilhomme est quelqu'un qui cache ses codes, et il faut qu'il se transforme et reste privilégié. T'as beau aller au musée et jeter ton dévolu sur un artiste reconnu, il deviendra révolu. Ringardisé du seul fait que t'y as porté la vue, toi le gueule individu, si commun sans plus-value. Car le bourgeois gentilhomme est quelqu'un qui cache ses codes, et il faut qu'il se transforme et reste privilégié.
Alors revenons à Franck Lepage. Vous assurez que n'importe qui a envie de dire quelque chose sur sa vie, sur son expérience, sur ce qu'il a appris, peut monter sur une scène sans grands apprêts, sans grands atours, sans grands éclairages et sans grande mise en scène, partager son expérience avec un public.
Oui, mais on ne fait pas que le dire, on le prouve. Il y a une conférence gesticulée Inculture numéro 6, avec 6 personnes qui viennent du Finistère, de Plourin-les-Morlaix, qui sont des gens qui vont raconter leurs souvenirs d'école, la façon dont ils ont été orientés. Hein. T'es nul en maths, tu feras couture. Et dont l'école a déterminé un certain nombre de choses dans leur vie. Et bon, voilà. Et alors, ça donne un truc. Alors, est-ce que c'est un spectacle? Mon Dieu, je suis pas critique de théâtre, et puis je dirais, je m'en fiche. Ce que je sais, c'est que les gens sont absolument bouleversés dans la salle, enfin, je dirais, parce qu'il y a transmission, il y a partage d'une émotion politique, pas seulement je raconte ma vie, si tu veux, mais voilà ce que j'ai compris de ce qu'on m'a fait. Voilà la rencontre d'un savoir chaud et d'un savoir froid. Le savoir froid, c'est le savoir universitaire, c'est un savoir passionnant, bien fait, par exemple celui de Boltanski. Boltanski écrit, théorise. Moi, c'est le savoir chaud. Moi, j'ai vécu le projet, d'accord ? Moi, je me suis prostitué pendant 15 ans pour obtenir des sous sur des logiques de projet où je montais des projets bidons qui n'avaient jamais lieu parce qu'il fallait récupérer l'argent, d'accord ? Et les gens que j'avais en face de moi le savaient, ok ? C'est ça. Donc ça, c'est un savoir chaud. Et bien, quand le savoir chaud rencontre le savoir froid, on a la révolution. C'est Boltanski qui le dit. C'est-à-dire quand les intellectuels et les acteurs sociaux ne sont plus coupés les uns des autres, ça pète. Donc moi, nous, ce qu'on fabrique à la SCOP, ce qu'on essaie de faire, hein, c'est de fabriquer du temps de cerveau humain disponible pour la révolution. Voilà, on fait rien d'autre. Et alors, évidemment, ça résonne pas mal avec la salle.
Oui, moi, j'ai vu des extraits de votre spectacle, enfin, de votre conférence à vous. C'est quand même très malin. Vous êtes un très bon comédien. Il y a des... On rigole, on se marre. Les dialogues sont... c'est faussement improvisé. Enfin, il y a des improvisations.
Mais ça marche avec tout le monde. Enfin, il n'y a pas que la mienne. Moi, je suis très cabotin, je suis très déconneur. Bon, voilà... Mais enfin, toutes celles qu'on a faites, il n'y en a pas une seule où on s'est planté. Pas une seule. Et venez voir celles avec des gens qui s'extériorisent comme ça beaucoup moins que moi. Elles sont plus fortes que la mienne. Celles qu'on fait sur l'engagement qui s'appelle un culture 3, puisqu'on s'est amusé à leur donner des numéros d'ordre. Mais à un moment, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Elle est plus puissante que celle que moi, je fais tout seul. Et ça, c'est le problème du one-man show. Bon, moi, je fais une espèce d'exploit. Voilà, je parle pendant 3 heures. Là, les gens disent, oh là là, comment il fait. Mais bon, voilà.
Il y a du monde à la fin, toujours, un peu dans la...
Mais alors, c'est ça qui est étonnant. C'est qu'au début, on m'avait dit, dépasse pas une heure. Hein. Mais j'ai dit, mais je peux pas abattre le capitalisme en une heure. J'ai fait le calcul, il me faut 72 heures. Bon, j'en suis à 3. On va voir.
Mademoiselle, je voulais vous remercier de m'avoir reçu et de m'avoir raconté cette histoire. Je voulais vous demander pardon de vous avoir appelé monsieur parce que j'aurais préféré que vous me laissiez vous enregistrer. Et puis je voulais vous dire que je crois que vous vous êtes trompé. Quand vous m'avez dit l'éducation populaire, monsieur, ça n'intéresse plus personne. Écoutez, regardez, mademoiselle, ils sont là, ils sont restés jusqu'au bout. Mademoiselle, vous m'avez raconté une étrange histoire. Ce jour-là, vous m'avez raconté que vous étiez allé dans le désert pour lire un livre à des Arabes et que vous aviez fait 200 kilomètres pour lire Le vieil homme et la mer. Et moi, je vous ai dit, mais quelle drôle d'idée, pourquoi vous avez fait ça? Et vous m'avez regardé avec un air tellement triste, mademoiselle, tellement triste. Vous m'avez dit, mais monsieur, l'ardeur, ça compte, non? Ça ne compte pas? L'ardeur? J'ai trouvé la phrase curieuse, mademoiselle, et puis j'y réfléchis depuis. Et je voudrais vous dire, je crois que vous aviez raison. L'ardeur, ça compte. Mesdames, messieurs, je vous remercie d'avoir écouté cette histoire. Merci, merci. C'est un des moments que je préfère dans le spectacle.
Alors résumons-nous. Vous avez cette SCOP, le pavé.
Ouais.
Vous êtes combien là-dedans?
On est 8.
8 qui sont quoi? Qui ont la même histoire que vous?
Non, quasiment. Ce sont tous des gens qui viennent du travail social, du travail socio-culturel. Il y a des animateurs, il y a des directeurs de maisons de jeunes, il y a des gens qui ont travaillé comme moi.
Qui sont tous en rupture?
Ils sont tous en rupture.
Des renégats.
Ouais, c'est ça. C'est plus exactement des gens qui, dans leur métier, dans leur profession, s'aperçoivent qu'ils ne pouvaient pas faire ce qui leur semblait légitime de faire. C'est-à-dire de l'éducation populaire et non pas des dispositifs d'insertion. De l'éducation politique, c'est-à-dire parler du capitalisme, de la domination, expliquer aux jeunes comment ça se passe, expliquer aux gens pourquoi ils sont dans la merde et qu'ils n'ont pas de boulot, et non pas leur faire croire que si ils se cultivaient, ils en auraient. Et donc, comme ça n'est pas possible dans ce qui est actuellement le travail social, le mouvement associatif, qui est totalement aliéné dans des logiques de subventionnement par projet, hein, parce que le grand ennemi, notre ennemi commun, c'est le mot « projet ». C'est lui qui nous tue. C'est lui dont il va falloir se débarrasser. Hein, on ne l'avait pas il y a 20 ans, il va falloir le mettre à la poubelle, ce truc-là.
Pourquoi une telle adversité devant un mot aussi...
Mais parce que ce mot est tellement incroyablement positif qu'on ne peut pas se défendre contre lui. Je veux dire, ça, c'est tout le travail qu'a fait Boltanski. Alors, cette fois-ci, Luc Boltanski, hein, pas...
Le sociologue.
Oui, pas l'autre.
Le collègue
Luc
de Bourdieu,
Boltanski
longtemps.
Et Eve Schiappello, qui ont fait un travail remarquable dans un livre qui s'appelle « Le nouvel esprit du capitalisme », dans lequel ils montrent que dans les années 60, le maître mot du management, c'est le mot hiérarchie, et que petit à petit, on va dégager ça. Et que maintenant, le maître mot, c'est projet. Le projet, c'est ce qui tue le désir. Vous comprenez le truc? N'importe quelle femme est capable de faire la différence entre un homme qui a un désir d'elle et un homme qui a un projet sur elle. D'accord? Le projet, c'est je définis toutes les étapes de ce que j'ai envie de faire, je sais exactement comment sera l'arrivée, donc j'ai plus envie de le faire. Alors, on s'est créé en SCOP. Alors, une SCOP, c'est une société coopérative. Alors, on a perdu deux mots.
Ouvrière,
oui. Non, c'est fini, c'est perdu, ça.
Ah bon?
Ça a changé. C'était une société coopérative ouvrière de production. C'est un modèle du 19e siècle où des ouvriers décident de créer leur propre entreprise. Bon. Alors, c'est devenu... Alors, on a perdu le mot ouvrier, Mmh. Et on vient de perdre le mot production. Donc maintenant, c'est une société coopérative participative. Donc langue de bois extraordinaire. Oui, les scopes oui. se mettent dans l'enfer du management elles-mêmes. Enfin, c'est prodigieux. Et alors, on vend des prestations. C'est-à-dire qu'en fait, nos activités, c'est du conseil aux collectivités locales. C'est-à-dire s'il y a des mairies qui ont vraiment envie de jouer à la participation. Vraiment, hein. OK. Rencontrons-nous, on en discute. Parce que toutes les communes aujourd'hui sont obligées de faire de la participation des habitants. Hein, ça, c'est l'idéologie dominante, on appelle ça la gouvernance. Hein, ça consiste à faire croire aux gens, mais comme dans le management, c'est pareil. Faire croire aux gens qui sont associés aux décisions. Il n'y a absolument pas l'ombre du début d'une participation dans aucune commune d'Europe. Il y a des chercheurs, d'Onzelot, ont travaillé là-dessus. Il y a des formes d'associations sympathiques, gentilles, il y a des conseils de quartier. Bon, mais il n'y a pas de participation vraiment. Nous, on dit la participation, si on en faisait vraiment, ça donnerait quoi ? Alors, vous allez rire, mais on a des communes qui acceptent le truc. Chez les élus, il n'y a pas que des renégats. Enfin, je veux dire, chez les élus, il y a des gens qui se posent sincèrement la question de faire des trucs bien avec les bien gens, sûr. Quoi. Enfin, bon. Et donc, on travaille avec eux. On fait de la formation continue, qu'on appelle de la déformation continue, évidemment. C'est-à-dire, on propose à des gens qui travaillent, je ne sais pas où, dans des dispositifs divers et variés, de venir travailler leur envie politique. Et puis, on fait des petites conférences gesticulées, oui. On fait aussi ça parce qu'on... On s'est aperçu qu'il y avait une espèce d'efficacité politique à ça. Mmh. J'imagine qu'on ressemble par la bande à tout un tas de formes d'interventions qui sont des interventions culturelles avec un petit C, pas avec un grand Q. Et qui consistent simplement à faire des choses avec les gens à partir de ce qu'ils savent, de ce qu'ils ont compris. L'idée de gauche de la culture, c'est pas de dire que les gens manquent de culture, c'est de dire que les gens sont pleins de culture, qu'ils ont trop de culture. Et qu'ils ont notamment trop de culture par rapport à l'organisation du travail. C'est-à-dire que n'importe quelle personne sait qu'elle en sait plus, grâce à l'école d'ailleurs, qu'elle en sait plus que ce qu'on lui laisse faire dans l'organisation du travail.
C'est ça.
Mais ça, on ne touche pas. Premier des droits de l'homme, hein, le droit de propriété privée des grands moyens de production. Hein. Michelin, l'année de ses bénéfices records, a le droit de licencier des milliers de personnes. On ne peut pas l'empêcher. Donc là, il y a un problème compliqué.
Je voudrais qu'on parle un peu de la langue de bois aussi. Il y a plein de thèmes que vous abordez dans ces conférences. Mais je voudrais qu'on parle un peu de la langue de bois. On a parlé du mot projet, là, que vous débusquez.
Pour aller vite, Orwell a compris un truc absolument fondamental. Orwell, quand il écrit 1984, il comprend que pour transformer un pays en pays fasciste, c'est pas la peine de faire débouler des armées et des bruits de bottes, il suffit de transformer le langage et d'enlever tout ce qui, dans le langage, peut être négatif pour le remplacer que par du langage positif. Voilà, ça c'est la langue de bois, on en est là, d'accord ? Quand le capitalisme s'appelle développement, on est foutu. Parce que le développement, c'est un concept positif. Donc vous ne pouvez pas être contre le développement. C'est très, 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 très difficile. Vous ne pouvez pas être contre la démarche qualité, ou alors vous êtes un dingue, vous êtes contre la qualité. Vous ne pouvez pas être contre l'harmonisation des diplômes. D'accord ? Et donc ça, c'est ce problème. Alors on organise avec le pavé des stages de désintoxication du langage, où les gens viennent, et c'est merveilleux. C'est merveilleux, parce que personne n'est dupe. On sait ça. On demande aux gens quels sont les mots qui vous embêtent en ce moment. Je me rappelle de cette dame qui arrive, qui me dit, moi, rebondir. Moi, j'en ai marre de rebondir. Donc, les gens savent ça. Je veux dire, les gens savent qu'on se fout de leur gueule quand on parle de dégâts collatéraux, quand on parle de choses comme ça, quand on parle de croissance négative, d'égalité des chances. Enfin, vous imaginez l'égalité des chances ? C'est soit l'égalité, soit les chances, hein, c'est pas les deux. L'égalité des chances, ça veut dire que pour le lièvre comme pour la tortue, la ligne de départ est la même. Hein. C'est vachement intéressant. Hein. Alors, je pense qu'il y a eu de tout temps de la langue de bois. Il y a eu une langue de bois soviétique à l'époque, d'accord, c'est pas l'apanage de ce pouvoir-là. Mais il y a une langue de bois actuellement qui devient très très préoccupante, qui est celle de l'invasion, de l'envahissement, je sais pas comment dire, du vocabulaire de l'entreprise à toutes les sphères de la société. Et ça, c'est très 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 embêtant. Et donc, on est en plein là-dedans en ce moment. Alors, ça fonctionne, hein, la langue de bois, attention, parce qu'on pense avec les mots. On pense avec les mots. Donc si on nous change les mots, on pense différemment. Donc je raconte, pour rire dans la conférence, j'ai un passage marrant où je raconte qu'avant, quand on parlait des pauvres, on disait les exploiter. Bon, le pouvoir nous a fait comprendre, si on voulait des subventions, il fallait dire les défavorisés. Mais sauf qu'un exploité, c'est un mec qui a été victime d'une exploitation, un défavorisé, c'est un mec qui n'a pas eu de bol. Et donc on ne va pas travailler de la même façon avec un type dont on pense qu'il y a un exploiteur quelque part, ou un type dont on pense simplement qu'il n'a pas de chance. On ne fait plus le même travail. Et donc le pouvoir a compris que le mot change notre façon d'agir. D'où l'importance de se battre sur le langage. Mais ce langage est positif. Comment est-ce qu'on se bat contre des mots positifs ? Eh bien, on ne sait pas. On n'a pas encore inventé les formes pour résister à ça.
C'était pour une éducation populaire, une nouvelle diffusion d'un reportage de Daniel Mermet et Antoine Chao. Merci à Franck Lepage, merci aussi à François Grosjean et Nicolas Lambert. La prochaine conférence gesticulée de Franck Lepage aura lieu le 4 avril prochain à Césarieux dans l'Ain. Vous pouvez retrouver toutes les autres dates des conférences gesticulées sur le site de la coopérative d'éducation populaire Le Pavé, www.scoplepavé.org. À lire Éducation populaire, une utopie d'avenir, un livre coordonné par l'équipe de Cassandre Horchamp à partir des enquêtes réalisées par Franck Lepage aux éditions Les Liens qui Libèrent, et Le Grand Dégoût culturel, un livre d'Alain Brossa aux éditions du Seuil. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, sur le site latireba.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Lucas Vaillant, une émission réalisée par Jérôme Chélius, Franck Adhérer, Coyen Guyen, et préparée avec Jonathan Duong et Agnès Lebotte. C'est Stéphanie Fromentin qui attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis aux 56 40 01 56 40 37 37. Tout de suite, on retrouve Hervé Pochon avec un temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Superman, Batman, Robin, thank goodness you're here.
Bonjour à tous et bienvenue au Mona Bismarck American Center à Paris, avenue de New York, ça ne s'invente pas, sur les quais, au bord de la Seine, où une exposition sur les super-héros, l'art d'Alex Ross, se déroule jusqu'au 15 juin. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici au Mona Bismarck American Center ?
Actuellement, je suis stagiaire. J'assiste la directrice de programmation exposition.
Ça vous plaît ?
Énormément.
Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce que vous faites ?
Déjà le côté multiculturel, enfin, allier la culture américaine, la faire découvrir aux Français, le fait que ce soit aussi une petite structure, donc qu'on puisse être un peu plus proche du public.
Parce que c'est pas très grand, effectivement, il y a 3 salles, c'est ça ?
4 galeries, oui, celle-là, généralement, elle est pas réservé aux expositions, mais elle fait partie aussi de l'exposition.
Il y a un super pouvoir que vous aimeriez avoir ?
Peut-être lire dans les pensées des gens. Ouais. Beaucoup me plaisent d'être invisible aussi, c'est pas mal. Voler. Mais ouais, peut-être lire dans les pensées des gens, ça pourrait arranger beaucoup de choses.
Qu'est-ce que ça pourrait arranger ?
Les malentendus, parfois aussi, on se pose souvent la question de, enfin, qu'est-ce qu'on représente, l'importance qu'on a pour certaines personnes, ça pourrait directement répondre à ces genres de questions.
Vous n'arrivez pas à lire dans mes pensées là ?
Non, là je suis clairement, je suis pas du tout sensible à ça, j'arrive pas à lire dans les gens.
Pourtant, je comptais vous demander, ça coûte combien l'entrée pour l'exposition ?
Alors, on a des tarifs préférentiels pour étudiants, les demandeurs d'emploi, tout cela, ils sont à 5 euros. Les enfants de moins de 12 ans, c'est gratuit. Et après, tarif plein, c'est 7 euros.
Comment vous avez trouvé votre stage ici ?
Sur Profil Culture, un site. J'étais très étonnée parce qu'on a beaucoup de mal à en trouver, surtout vu les demandes que je voulais en temps partiel.
Et vous avez fait des études de quoi avant ?
J'ai fait une licence de lettres modernes. Littérature. Et là, je suis en master d'administration de projets culturels.
Et votre prénom ?
Manon.
Bon, ben, plein de bonnes choses, Manon.
Merci beaucoup. À vous aussi. Bon courage pour la suite de votre travail.
Merci.
Bonjour, je suis Danielle Fortier, la directrice des expositions et programmes ici. Vous voulez regarder un peu ?
Oui.
Ok, très bien. En fait, là, on a une chronologie qui explique qu'aux États-Unis, les comics sont restés un peu enfantins justement parce qu'il y avait une Comics Code Authority, une manière de censurer les éditeurs de comics.
Censurer.
En fait, dans les années 50, on avait dit, il y avait un psychiatre qui a dit que les bandes dessinées, les comics, c'était mauvais pour les enfants, c'était des mauvaises influences. Donc, ils voulaient enlever tous les éditeurs de bandes dessinées et finalement, ils ont créé cette sorte d'auto-censuriser.
L'autocensure, et comme ça, c'est une manière de contourner la censure.
Précisément.
Ça vous impressionne, mademoiselle ?
J'écoute, ça m'impressionne. L'autocensure ne m'impressionne pas du tout, et la censure encore moins. Ouais. Donc non. Mais par contre, j'écoutais madame, donc d'accord.
Voilà, vous allez lire ça juste là. C'est Dr. Werthem qui a dit que les Les super-héros sont mauvaises pour les enfants.
Des études sur la psychanalyse aux États-Unis. C'est ça?
C'est un psychiatre américain des années 50 qui a dit que, par exemple, Superman, c'est fasciste. Batman, il était homosexuel avec son petit camarade Robin. Et Wonder Woman, elle était lesbienne avec des problèmes aussi de bondage, etc. Donc, il a dit que ça fait des mauvais influences sur les enfants. Donc, ils ont créé, c'était les éditeurs de bande dessinée qui ont créé cette code qui a réglé, il ne faut pas exagérer les traits des femmes dans les comics, il ne faut pas... Le mal doit toujours être traité mal, c'est-à-dire que le bien doit toujours gagner, etc. Il y avait plein de règles. On ne peut pas avoir les vampires, on ne peut pas avoir le cannibalisme.
Vous avez un super pouvoir ?
Non.
Vous regrettez ?
Non plus. Alors non, pas du tout.
Ça, c'est bien, parce que vous êtes la première personne à qui je vous propose un super pouvoir et qui dit non.
J'aime bien la normalité. Ou plutôt pas la normalité, mais juste être parfaitement vivre ma vie sans avoir de super trucs. Voilà.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans la société, il faudrait des super-héros pour...
Non, juste des gens équilibrés.
Bon, ben, je vous laisse regarder l'exposition.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Excusez-moi, vous avez la tenue de Batman, vous ?
Absolument, je suis Batman.
Et vous êtes à fond pour mettre une veste comme ça avec le logo de Batman ?
Je suis sponsorisée, en fait.
Par Batman ?
C'est ça.
Et vous faites quoi dans la vie ?
Je suis étudiante.
En quoi ?
Pour l'instant, en bac.
Ah, d'accord. C'est en terminale, quoi.
C'est ça.
Et qu'est-ce qui vous plaît dans les super-héros ?
À la base, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les costumes, parce que je suis cosplayeuse.
Cosplayeuse, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que je porte des costumes de super-héros en convention.
Et il y a beaucoup de conventions de super-héros ?
Il y en a 3-4 par an sur Paris.
Une convention de super-héros, c'est quoi ? C'est des super-héros qui se rencontrent ?
Non. Non.
En fait, c'est des passionnés qui adorent faire du dessin ou de la couture, des choses comme ça, et qui utilisent leur savoir-faire pour réaliser des costumes de personnalités qui sont dans des films ou des comics. Et le but est d'en avoir un costume le plus beau possible pour que quand le public les voit, ça leur donne l'impression de rencontrer un peu les héros qui font partie de leurs rêves.
Je peux avoir votre prénom ?
Eleanor.
Et Benoît. Un temps de cochon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve lundi.
Un temps de pochon a été réalisé par Véronique Barnet.
Découvrez INA Global. INA Global est une édition de l'Institut National de l'Audiovisuel consacrée aux médias et à tous ceux qui les animent. Analyse, décryptage, paroles d'experts. Retrouvez ce premier numéro d'Un autre regard sur les médias en librairie à partir du 27 mars, puis chaque trimestre. Pour en savoir plus sur INA Global et continuer le voyage dans l'univers des médias, rendez-vous sur le site inaglobal.fr. inaglobal.fr.
À suivre, Frédéric Lodéon, excellente journée à l'écoute de France Inter, il est 16h. Le point sur l'actualité, Laetitia Gaillet.
Après Twitter la semaine dernière, le gouvernement turc a décidé de bloquer aujourd'hui l'accès à la plateforme YouTube. Ça fait suite à la diffusion de nouveaux enregistrements pirates qui mettent en cause le régime. C'était la première fois qu'ils se rencontraient. Le pape François et Barack Obama se sont parlé pendant près d'une heure aujourd'hui au Vatican. Le président américain a déclaré qu'il était un grand admirateur du souverain pontife. Il l'a même invité à la Maison Blanche. Mais les deux hommes ne sont pas pour autant entendus pour tout. À propos de l'avortement, le pape François a évoqué le droit à la vie. Le président américain le droit à l'objection de conscience. C'est un responsable ukrainien qui l'affirme cet après-midi. Près de 100 000 soldats russes sont massés actuellement le long de la frontière ukrainienne. Selon le président du Conseil de sécurité nationale ukrainien, ces hommes seraient même prêts à frapper depuis plusieurs semaines. Alors faut-il y voir une nouvelle initiative russe en Ukraine ? En tout cas, les États-Unis et les Européens ont déjà dit hier qu'ils travaillaient ensemble à de nouvelles sanctions économiques si Moscou devait prendre de nouvelles initiatives. Sur le terrain politique, enfin, à Kiev, Yulia Tymoshenko a confirmé cet après-midi qu'elle se présentait à l'élection présidentielle du 25 mai prochain. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a ordonné aujourd'hui l'ouverture d'une enquête au Sri Lanka. Il s'agit de savoir si les forces sri lankaises et ou les séparatistes tamouls ont commis des crimes de guerre pendant le conflit qui s'est achevé en 2009. Le nouveau texte qui définit le métier d'enseignant est dans les clous. Les principaux syndicats d'enseignants l'ont approuvé aujourd'hui en Conseil technique ministériel. Il s'agit d'un vote consultatif, mais pour Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation, il s'agit d'un accord historique. Le document va remplacer les textes qui dataient de 1950. Il sera sera applicable à la rentrée 2015. Le nouveau projet de décret reconnaît le travail des enseignants en dehors du temps passé en classe, le suivi aussi de l'évaluation des élèves, le travail en équipe, la formation ou encore les rencontres avec les parents d'élèves. Dans les établissements en éducation prioritaire, le texte prévoit également des décharges horaires pour le travail d'équipe. Cela se traduira dès la rentrée prochaine par 1h30 de cours en moins. Et puis un second projet de décret prévoit aussi des aménagements pour les enseignants du primaire dans ces mêmes zones. Ils bénéficieront de 9 journées libres par an et ce, à compter de la rentrée prochaine également. Les principes de la réforme des retraites ont été adoptés. Il reste maintenant à entrer dans le détail. Le compte pénibilité commence à prendre forme. Les partenaires sociaux en ont reçu une ébauche aujourd'hui. Ça devrait être basé sur un ensemble de références nationales identiques pour les entreprises et les branches professionnelles. Ce compte personnel de pénibilité permettra aux salariés exposés de cumuler des points tout au long de leur carrière afin de se reconvertir, de travailler à temps partiel ou encore de partir plus tôt à la retraite. Et il devrait être mis en place à partir de 2015. Enfin, la grève à la SNCM continue aujourd'hui à Marseille. Les élus marseillais, d'ailleurs de tous bords, ont appelé le gouvernement et l'Élysée aujourd'hui à peser sur le sort de la compagnie maritime. Ils relaient en partie la demande des syndicats qu'ils ont tous reçue. Les syndicats veulent que le gouvernement évince l'actionnaire principal de la SNCM, à savoir Transdev. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
1, 2, 1, 2. Mes chers auditeurs,
tous les samedis à 21h,
vous connaissez tous le crochet radiophonique.
On a les moyens de vous faire chanter.
On y va ?
France Inter réinvente le radio crochet.
Ok, je suis prêt.
Avec Vali et Didier Varro.
Cette semaine, retrouvez deux des 14 artistes que vous avez sélectionnés.
J'y vais, c'est parti.
Bonjour. Cette semaine, confrontation surprise entre deux artistes au caractère bien trempé.
Incroyable.
Clou.
Je suis le clou du spectacle.
Et Guillaume Leborgne.
Écoutez, le radio crochet.
Ils s'affronteront devant le public du studio 105.
Oui, bah c'est mon avis.
Et le jury.
Mon choix va quand même être compliqué.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission,
rendez-vous ce soir à 18h30 devant la porte B de la Maison de la Radio.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
On a les moyens de vous faire chanter. Le Radio Crochet de France Inter, en partenariat avec l'Assasem et la FNAC. France Inter.
La voix est libre.
C'est à vous, Frédéric Lodéon.
Bonjour, Laetitia Gaillet. On se retrouve à 17h pour d'autres informations.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. J'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Edgar Moreau, violoncelliste. Bonjour Edgar.
Bonjour Frédéric.
Alors très jeune violoncelliste, 20 ans le 3 avril prochain et une carrière déjà magnifique qui a débuté très très fort, faut bien le dire, avec les révélations des Victoires de la Musique, entre autres un prix au concours Tchaïkovski, ce qui est un peu comme les Jeux Olympiques, en plus que le président du jury, Valéry Gergiev, le fameux chef d'orchestre, qui n'est pas un plaisantin. Et vous avez aussi eu un prix pour l'interprétation, la meilleure interprétation de l'œuvre contemporaine, vous êtes lauréat de l'Académie Maurice Ravel aussi, etc., etc. Et surtout, des concerts un peu partout maintenant, avec les plus grands orchestres, dans les plus grandes salles. On peut citer, vous avez joué, d'ailleurs on l'a annoncé ici, vous avez joué avec l'Orchestre National de France aux Champs-Élysées, tout récemment. Le 2 avril, vous serez à Bordeaux, et le 3 à Toulouse, avec Tougan Sokiev et l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, au Festival de Pâques à Aix-en-Provence, au Festival de Saint-Denis, dont nous sommes partenaires, à l'Auditorium du Louvre, le 29 octobre. Ça n'arrête pas. Et comment faites-vous? Parce que, bon, voilà... Même pas 20 ans et toutes ces responsabilités. Vous le vivez comment ?
Bah écoutez, je le vis plutôt très bien. Alors c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Il faut apprendre. Je suis en train d'apprendre en tout cas à gérer ma vie, à gérer mon temps. Voilà, c'est vrai que j'essaye de. C'est toujours un peu difficile de jongler entre la vie personnelle, la vie professionnelle, surtout à mon âge. Voilà, j'essaye de faire du mieux que je peux en tout cas. de gérer effectivement aussi mon travail, mon sommeil, voilà, tous ces facteurs en fait. Mais voilà, je suis très heureux parce que tout simplement ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est mon rêve depuis toujours. C'est magnifique ce qui se passe pour le moment, etc. Voilà, j'essaye de rester aussi lucide parce que je suis encore très jeune, j'ai encore beaucoup de choses à prouver et beaucoup de choses à faire.
Voilà, et bien écoutez, comme ça va vite, on va commencer par une des pièces les plus rapides de tout le répertoire du violoncelle. C'est la fameuse Danse des elfes de David Popper. Davaï, davaï, comme on va dire Rostropovitch. Thank you.